On part pour Jérusalem où l'on retrouve Yehuda Lancry. Bonsoir Yehuda Lancry.
Bonsoir Bernard.
Bonsoir, vous avez été ambassadeur à Paris, évidemment tout le monde s'en souvient sur Radio Shalom. Vous avez également été ambassadeur aux États-Unis et Joe Biden, on le disait en titre de cette édition, a lancé une charge qu'on peut qualifier de sans précédent vis-à-vis de Benjamin Netanyahou. On savait évidemment que les choses n'allaient pas bien entre l'administration Biden et le gouvernement Netanyahou, mais là je crois que jamais Joe Biden a été, on va presque dire, aussi franc. Et il dit la chose suivante, il dit « C'est le gouvernement le plus extrême dont je me souvienne en Israël ». On lui pose la question en se disant ben « Mais bon, malgré tout, au bout d'un moment, vous ne pouvez pas rester éternellement sans recevoir votre allié israélien à la Maison-Blanche ». Il dit « Si, je peux très bien ne pas le recevoir, c'est le président Herzog qui viendra ». On précise pour tous ceux qui ont compris entre les lignes que le président Herzog est un homme qui lui est un travailliste de base, donc un homme qui est beaucoup plus proche de Joe Biden. Et puis troisièmement, et ce sera l'objet après d'une question en soi, mais et troisièmement, on lui pose la question, bon alors la paix avec l'Arabie Saoudite, c'était quand même l'un des grands objectifs, et du gouvernement Netanyahou, et de votre administration d'ailleurs. Vous y croyez? Il dit non, pas du tout, c'est pas pour maintenant, on verra ça plus tard. Donc ça fait vraiment beaucoup. Yehuda Lancry, vous qui êtes diplomate, qui connaissez bien et le gouvernement israélien et les Américains, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors mon cher Bernard, juste pour rappeler que j'étais ambassadeur il y a une vingtaine d'années aux Nations Unies et non pas aux États-Unis. Cela étant, évidemment, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la politique américaine.
J'ai fait exprès de dire États-Unis parce qu'à chaque fois que vous allez en ligne, vous me reprenez. Et je me suis dit, voilà, vous étiez aux États-Unis parce que c'est quand même le sujet qui nous intéresse. Alors, je fais comme un bon élève, je fais attention, je dis, j'ai quand même un 30 ans de métier. Et l'ambassadeur me reprend, me fait, monsieur Abouaf, je vous précise, j'étais ambassadeur aux Nations Unies. Ok. Mais ce qui nous intéresse, c'est que vous étiez là-bas, vous les connaissez bien. À chaque fois, pareil. Allez, je vous écoute. Vous êtes surpris, vous êtes... qu'est-ce que vous en pensez?
Je ne suis pas surpris. Je pense que le président Joe Biden a depuis un certain nombre de mois signalé son mécontentement quant à la démarche dite de réforme judiciaire que mène le gouvernement sous la houlette de son premier ministre, Benjamin Netanyahou. Ce qu'il y a de fracassant dans cette déclaration, c'est qu'elle arrive d'un homme d'État, mettons de la stature de Joe Biden, président des États-Unis, qui de surcroît était lié par une amitié proche à Netanyahou, dont il dit que c'est l'ami de 40 ans. Donc il va falloir prendre tout ça au sérieux. Il y a là une dégradation grave dans la relation personnelle entre les deux hommes d'État. Ce qu'a dit Joe Biden ne fait que refléter la vérité. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a jamais vu un gouvernement avec des extrêmes de la qualité de Ben-Gvir, Smotrich, pour ne citer que quelques-uns. Et par moments, lorsque des déclarations ministérielles s'accumulent, celles des députés aussi, on a l'impression que nous vivons avec une coalition proprement cauchemardesque. Et ça ne s'est jamais vu en Israël, donc ce qu'il signale est la vérité la plus objective. C'est un constat qui est fait par les Israéliens, évidemment pas ceux de la droite forcenée en Israël, mais par une majorité d'Israéliens. On a le sentiment qu'effectivement nous avons battu les records en termes d'extrémisme au sein du gouvernement et au sein de la coalition.
Vous savez, depuis quelque temps, la gauche israélienne ou les libéraux israéliens, je ne sais pas quel mot utiliser, bloquent les routes. Alors très franchement, c'est pas dans la tradition israélienne et ils abusent un peu. C'est pas franchement bloquer Ayalon. Nous en France, pour nous, c'est genre pain quotidien. En Israël, ça se fait pas. Toujours est-il qu'il y a une nouvelle façon de faire en Israël, c'est de foncer sur les manifestants. Ce matin, une moto. La fois d'avant, c'était une voiture, et c'est très dangereux, des voitures qui foncent sur les manifestants pour se frayer un chemin. Smotrich donne raison aux gars qui foncent sur la foule. Et il faut savoir qu'il est ministre. Il faut imaginer l'effet que ça a sur n'importe qui apprend ça aux États-Unis.
Ouais, ça relève du débordement proprement délictuel. C'est inimaginable. Ce n'est pas le seul débordement que l'on constate. Ça fait toute une série chez Smotrich, chez Ben-Gvir et leurs compagnons dans la coalition. Je disais tout à l'heure que c'était une coalition cauchemardesque, parce qu'effectivement, on se réveille en Israël autour de déclarations insensées qu'on a réellement du mal à attribuer à des parlementaires, à des élus nationaux, à des ministres. Ça plonge Israël dans un malaise profond. Ça déchire Israël de l'intérieur, ça le défigure de l'extérieur. Alors voilà où nous en sommes.
Alors où nous en sommes, c'est qu'on était aussi au seuil d'un accord avec les Saoudiens. Et ça aussi, Biden en a parlé. C'est-à-dire qu'on avait vraiment comme ça faire les Saoudiens. C'est-à-dire, on a envie de dire à la chinoise, petit pas, on accepte que les Arabes israéliens viennent à la Mecque. On laisse passer les avions, pas plus, mais on laisse passer. Bon. Et là, blocage complet. Vous diriez comment, avec votre expérience, que avec le gouvernement actuel, Biden a raison, c'est mort, on peut pas, c'est impensable, ou bien, bon, on connaît les crises en Israël, hein, c'est pas la première.
Même avec un gouvernement, mettons, autrement plus modéré que celui de Netanyahou, que l'actuel, avec Netanyahou en tant que Premier ministre, il aurait fallu vraiment s'investir aussi dans l'axe israélo-palestinien pour que puisse émerger une quelconque normalisation avec les Saoudiens. N'oublions pas que les Saoudiens sont les pères conceptuels de ce qu'on appelle l'initiative arabe de 2002 à Beyrouth. C'est l'Arabie saoudite qui en a été le moteur essentiel et qu'ils ont une forme de responsabilité à l'endroit des Palestiniens, qui ne sont pas prêts à abandonner. Il faudra que Netanyahou, le moment venu, lâche du lest au niveau de sa coalition un changement radical dans sa composition, pour qu'il puisse effectivement avoir les coudées franches suffisamment et aborder la négociation avec les Saoudiens afin d'aboutir. Ce que je verrais, c'est qu'on change vers un gouvernement d'union nationale. C'est là où le salut pourrait venir, où les composantes seraient grandes et lapides et qui permettraient à Netanyahou d'aller de l'avant. Sans quoi ça serait des fantasmes. On a effectivement gagné quelques petits pas dont vous parlez tout à l'heure, déjà du temps de l'ancienne administration américaine où on avait avancé, mais on ne pourra pas avancer suffisamment. Les messages sont très clairs. L'évolution au Moyen-Orient sur le plan géostratégique, elle aussi indique que les Saoudiens, à un moment donné, mettons tributaires de la haute technologie israélienne, de la supériorité militaire israélienne pour se protéger de l'irrédentisme iranien, sur ce plan, prennent un peu de distance parce qu'ils ont apaisé leur relation avec l'Iran, parce qu'ils ne ressentent plus le même danger de la façon qu'ils l'avaient ressenti auparavant. Donc, Israël est perdant sur le plan de la région, comme sur le plan de l'axe Israël-Arabie Saoudite, et il faudrait régler toute la machine de la façon la plus subtile possible afin que politiquement, sur le plan interne, Israël soit perçu de façon plus rassurante par les Américains et extérieurement par les Saoudiens, avec un gouvernement israélien susceptible d'aller de l'avant le moment venu avec les Palestiniens.
Dernière question, est-ce que autant Netanyahou que Gantz d'ailleurs, est-ce que, on va dire donc, nous habitons loin, est-ce que les Israéliens peuvent entendre ce que vous voulez dire? C'est-à-dire que, effectivement, si Netanyahou fait un accord avec Gantz, il n'a plus besoin de Ben-Gvir et on oublie ses débordements, il y en a 100 000 autres. Vous savez que ils ont proposé de démissionner le procureur. Chaque jour, il y a une nouvelle déclaration. Donc, d'après vous, est-ce que les Israéliens sont sur le chemin d'entendre ce que vous dites ou pas? Parce que moi, personnellement, je ne suis qu'un lecteur de la situation, un observateur. Non, ils sont à des années-lumière de ça. Et ce n'est pas du tout leur idée.
Alors, c'est vrai que l'opinion publique et l'électorat israélien a viré à droite depuis assez longtemps. C'est ce qui constitue d'ailleurs la base essentielle du gouvernement israélien. Mais je pense que avec cette équipe gouvernementale, nous prenons le risque de nous isoler de plus en plus sur le plan international avec une mésentente avec l'allié essentiel d'Israël, le garant de sa sécurité, le garant de son devenir au niveau de la famille des nations. Prenez les Nations Unies par exemple, où Israël survit ou avait survécu pendant des temps de crise grâce à la protection américaine. J'en suis en attesté avec tous les débats au Conseil de sécurité pendant la deuxième intifada. Mais c'est à son corps défendant que les États-Unis avaient opposé leur veto à toute condamnation d'Israël, sans parler évidemment d'une résolution qui pourrait être encore plus grave pour Israël avec des sanctions et ainsi de suite. Donc, il est de l'intérêt d'Israël, de l'intérêt vital de changer de cap. Et je pense que Israël sera soulagé dans sa majorité avec une nouvelle composante de la coalition gouvernementale.
Yehuda Lankri, ancien ambassadeur d'Israël à Paris, ambassadeur aux Nations Unies, j'ai bien entendu, et je vous remercie d'avoir été l'invité de Radio Shalom. Bonsoir à vous.
Merci beaucoup, bonsoir Bernard.